l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi. Quel plaisir de se retrouver en ce début de semaine. Et quel plaisir de vous retrouver, David Torchala, qui est en forme malgré les réunions. Mais s'il y a des conférences de presse qu'il ne fallait pas louper, celle de vendredi dernier était importante. Vous allez nous donner plein d'infos.
Ben oui, parce qu'on est dans les préparatifs de la venue du pape. Donc effectivement, il y a les infos. Mais enfin, tic-tac, là, c'est dans 19 jours maintenant. Donc ça approche.
Ça approche à grands pas. Et on parlera bien sûr de l'organisation et du pèlerinage du Saint-Père à Lourdes. Et on voit qu'il y a quelques travaux qui ont déjà bien commencé au sanctuaire.
Oui, déjà aussi, hein. Sur la prairie, si vous êtes de passage, venez voir les échafaudages, le podium est en train de se monter.
De se monter tranquillement. Et puis, juste après, on fera la rentrée, j'aurai le patron de la GESP qui nous parlera donc de la GESP et des nouveaux dossiers qu'il va mener, des contrats aussi qu'il avait des écoles comme Marie Curie, par exemple, avec qui la GESP a un contrat, une collaboration. On parlera bien sûr de la rentrée de la GESP avec quelques concerts et quelques soirées intéressantes, surtout Occitane qui aura lieu d'ici quelques jours. Et puis, si c'est une amie de la radio, vous l'aimez, vous l'adorez, vous l'avez même amenée comme bénévole.
Mais de qui allez-vous parler ?
Anne Deslois.
Ah oui, ça c'est vrai, on l'aime beaucoup.
Anne Deslois qui sera donc l'invitée de Mathias Théry dans deux passages à Lourdes. Mais pour l'heure, c'est l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes qui nous intéresse.
Présence dans la cité mariale, 96.
Vendredi dernier, mon cher David, une conférence de presse très importante, puisque vous avez commencé, enfin la préfecture, la ville de Lourdes et le sanctuaire ont commencé à dévoiler un peu l'organisation du pèlerinage du Saint-Père à Lourdes.
Oui, et surtout les abords du sanctuaire, comment se rendre à Lourdes, ça c'était le thème de cette conférence de presse organisée par Madame Sybille Samoyo, qui est la nouvelle préfète des Hautes-Pyrénées, en présence du maire de Lourdes, de Thierry Lavitte, Monseigneur Jean-Marc Mica, l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, et puis le recteur, le père Michel Dauban, le recteur du sanctuaire. Ben oui, parce que ça se met en place, évidemment, petit à petit, je le disais en plaisantant que nous sommes à 19 jours, mais effectivement, on compte les jours, et c'est vrai, il reste encore quelques points à travailler. Je crois que ça, c'est vraiment le typique de cet exercice. Chaque jour avance, et donc on arrive à résoudre un certain nombre de questions, mais il y a d'autres questions qui apparaissent les unes à la suite des autres. Et effectivement, le sujet principal de cette conférence de presse était l'accès à Lourdes, l'accès au sanctuaire. Vous savez, je vous l'ai déjà dit à cette antenne, on ne pourra pas venir comme on vient d'habitude en voiture jusqu'à Lourdes. Et oui, parce que ce sont des dizaines de milliers de voitures personnelles, un millier également d'autocars qui sont attendus dans la cité mariale, et donc il n'y a pas autant de places de parking sur la ville, sachant que aussi tous les hôtels sont déjà complets, et donc les personnes ont déjà occupé une partie des parkings. Alors bon, je ne suis pas salarié de la ville ni de la préfecture, donc je ne peux pas pouvoir vous déployer tout ce plan-là, mais en tout cas, c'est vraiment facile de le comprendre, facile de comprendre qu'il va falloir s'organiser, en tout cas pour venir à Lourdes, et donc s'arrêter avant, très certainement à Tarbes. Vous savez qu'il y a des grands parkings qui sont à Tarbes et qui seront certainement réservés, hein, je pense par particulièrement au grand centre commercial de Tarbes-Leclerc Méridien, et puis il y a aussi le téléport hein, près de l'aéroport, voilà. Donc ce sont ces types de parking là, avec de grandes possibilités de parking qui sont convoitées en tout cas par les services de l'État pour mettre en place un service de navette, voilà, depuis Tarbes, pour pouvoir arriver en navette avec des rotations pour arriver plus sereinement dans la ville de Lourdes.
Alors j'ai vu qu'il y avait quand même une attention particulière aux gens à mobilité réduite ou aux personnes handicapées qui, eux, pourront venir stationner au plus près du sanctuaire.
Oui, ça, vous avez raison de le dire, parce que beaucoup de ces personnes qui sont atteintes d'un handicap, qui sont porteurs d'une maladie, qui ont besoin d'aide, en tout cas pour se déplacer, soit elles arrivent avec les bus dits diocésains, organisés par les paroisses, par les mouvements, par les communautés religieuses, etc., qui sont autour de Lourdes et bien au-delà dans les départements à côté. Donc elles, évidemment, seront déposé au plus près du sanctuaire, mais il y a aussi toutes les personnes qui viennent seules, enfin en tout cas de manière individuelle, et donc elles auront un fameux macaron rouge, parce qu'on va parler de la ville de Lourdes qui va changer de couleur avec ces trois couleurs. Il y aura du rouge, du orange et du vert. Bon, en tout cas, la zone rouge étant la zone du sanctuaire, eh bien les personnes à mobilité réduite pourront apposer ce macaron sur leur pare-brise pour pouvoir arriver et évidemment se garer au plus près. C'est important parce que déjà dans les inscriptions, vous savez qu'elles sont closes maintenant, beaucoup, beaucoup de demandes ont signalé, ont signalé leur présence, demandant en tout cas un accès facilité. Donc ça sera fait. Pour ceux qui connaissent, il y a cette grande prairie du sanctuaire où il y aura la messe, et bien à l'arrière, il y a encore des immenses terrains, voilà, et qui seront mis à la disposition grâce aux sœurs du petit couvent. Et donc ça sera vraiment d'un grand aide. Alors, j'ai parlé de couleurs parce que évidemment, la ville de Lourdes aura ces trois couleurs. Le rouge, ça sera la zone rouge, sanctuaire, si il sera classé zone rouge, ça veut dire pas possibilité en tout cas de se déplacer en voiture. J'ai envie de dire, c'est un peu comme d'habitude, hein, puisque le sanctuaire est évidemment piéton. La zone orange, ça c'est tous les alentours, hein, autour du sanctuaire, donc toute la zone des hôtels, hein, particulièrement, où tous les socioprofessionnels sont présents, donc les cafetiers, les restaurateurs, les magasins, etc., qui ceinturent hein, en fait le sanctuaire. Et puis la zone verte, la zone libre, c'est le centre-ville de Lourdes. Alors évidemment, il y aura des restrictions de voitures, donc quand on habite dans la zone verte, on aura un macaron vert. Quand on a besoin d'aller dans la zone orange pour aller travailler notamment, eh bien, on aura un macaron orange. Et puis pour les salariés du sanctuaire et tous ceux qui sont en mission pour l'événement lui-même, et notamment les bénévoles, ça sera sur la zone rouge. Donc ça veut dire que tout cela, il faut de la pédagogie, hein, il faut prendre le temps, donc tout est publié maintenant sur les sites internet, tant de la préfecture, de la ville de Lourdes, du sanctuaire aussi, pour voir, comprendre où aller retirer son macaron, etc., pour se déplacer. Mais j'ai envie de, moi, le conseil que je veux vous dire, vous savez, c'est un samedi soir, en tout cas un samedi après-midi et un dimanche, vaut mieux venir voir le pape que de penser à avoir un programme différent. Quelque part, il vaut mieux se rapprocher, parce qu'évidemment les déplacements seront un peu plus compliqués dans ces zones.
Alors bien sûr, on invite nos auditeurs à regarder Internet, et bien sûr, petit à petit, des informations complémentaires arriveront. Parlons un peu de l'organisation. Hein. Il y a des travaux qui ont déjà commencé, je crois que la prairie est fermée, il y a des échafaudages qui sont arrivés. On sent, ça y est, que ça se met en place.
Oui, 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 là, ça y est, on le sent et on le voit, parce que depuis le 3 septembre, donc, la prairie est fermée. Le sanctuaire reste toujours ouvert, hein, oui. Mais à l'intérieur du sanctuaire, la prairie est fermée parce que, ce sont les échafaudages qui sont en train de pousser comme des champignons, avec principalement les échafaudages du futur podium qui sera mis en place sur la prairie, là où célébrera le pape, hein, où il célébrera la messe dominicale. Un grand podium, hein, 400 mètres carrés, hein, donc autant dire que c'est une très belle installation. Et puis aussi plusieurs estrades qui sont, en fait, on appelle ça des poules presses, donc des endroits, des petits gradins qui permettent aux journalistes de pouvoir venir faire des images, de la vidéo, de la photo. Vous voyez, j'ai passé mon week-end, mon cher Philippe, à éplucher toute la liste des journalistes qui demandent une accréditation, et donc essayer de voir qui fait quoi, etc., etc. À la fin du week-end, j'étais un peu fatigué. fatigué, mais en tout cas, j'ai vu une chose, et je leur ai dit ce matin dans ma chronique, ce matin, j'ai vu combien Radio Présence était mobilisée. Je crois que l'ensemble, tous les journalistes de Radio Présence ont demandé leur accréditation, et ça, c'est assez formidable, parce qu'il y aura un plateau radio qui sera réservé pour Présence, vraiment au cœur du dispositif. Donc, ils seront bien là. Donc, évidemment, tout ça, il faut se préparer. Vous savez, il y aura aussi de nombreux plateaux de télévision. Donc, le petit jardin qui est en face de la grotte, eh bien, là aussi, il est fermé parce qu'on va mettre 5 plateaux pour TF1, pour BFM, pour CNews, pour KTO, pour la RAI aussi, puisque nous avons beaucoup de médias étrangers. Ils auront, des emplacements réservés pour faire des plateaux. Et puis, aussi, il y aura un grand plateau de télévision qui sera, lui, près du podium, réservé à France 2, puisque France Télévisions est le télédiffuseur hôte, c'est-à-dire qu'il faut une seule télé qui enregistre la totalité des images et puis ensuite partage ce signal international. Vous savez, on parle d'Eurovision, Mondovision, c'est ça, ça veut dire le partage de signal comme à l'occasion du célèbre micro-crochet. Et bien, ça sera exactement le même cas. Et donc, il y aura ce plateau aussi qui sera installé. Donc, si vous venez à Lourdes et que vous voyez des échafaudages, dites-vous que c'est d'abord le podium et puis ensuite pour les médias, et arriveront plus tard les écrans géants, plus d'une dizaine, et puis également des grandes tours pour la sonorisation. Et puis enfin, sur l'esplanade, un très très grand espace pour les journalistes avec 2 étages devant le centre d'information qui permettra à tout le monde d'être en hauteur pour voir la procession mariale du dimanche soir avec le Saint-Père et faire ces images les plus belles, parce que ça sera aussi vraiment magnifique.
On termine rapidement. Je crois que vous partez sur Paris où il va y avoir une conférence de presse au niveau national.
Oui, c'est vrai. Je pars tout à l'heure. Je prends l'avion parce que demain matin à 9h, il y a 200 journalistes qui nous attendent à la ville de Breteuil, donc à la maison de la conférence des évêques de France, puisque les 3 évêques, alors l'archevêque de Paris, l'archevêque de Metz et Monseigneur Mika, évêque de Tarbes-et-Lourdes, donneront donc une conférence de presse qui est très, très, très attendue. Sur l'organisation, ce que l'on se dit là, ce que l'on partage. Et puis il y aura des questions de budget, de dons, etc., etc., etc. Et aussi particulièrement l'accueil des personnes victimes de violences sexuelles dans l'Église. Voilà comment il y aura un temps, vous avez pu lire dans les journaux qui sera consacré. Le pape rencontrera 7 victimes de violences sexuelles dans l'Église. Donc, et puis ici également répondre à l'ensemble des questions des journalistes. Je peux vous dire, elles sont nombreuses, nombreuses, nombreuses.
Et on en aura plein de questions nous aussi la semaine prochaine. David Tourchala, merci beaucoup. Et puis vous nous ferez part peut-être à la fin de quand ça sera passé, mais c'est peut-être la première fois où vous êtes vraiment au cœur de l'organisation et voir aussi qu'est-ce que ça a représenté pour vous.
Ah oui, je peux vous dire déjà pour le moment, c'est pas mal de stress et de fatigue, mais je suis sûr qu'à la fin, on aura beaucoup de joie.
Beaucoup de joie. Merci beaucoup David, et puis nous on se retrouve tout simplement la semaine prochaine. Bon courage à vous, et puis c'est ce que je disais, donc à la semaine prochaine.
Merci Philippe, merci à tous.
Au revoir.
Présence à Tarbes et Lourdes, 90.6.
C'est un ami de Radio Présence que nous accueillons ici aujourd'hui. Bonjour Pierre Domingès.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le patron, le boss, le directeur de la GESP, cette scène musicale à Tarbes. D'abord, la GESP, en deux mots, c'est quoi la GESP ? C'est d'abord un quartier, non ?
Oui, c'est un quartier. C'était le nom du ruisseau qui traversait le quartier. C'était que des champs à l'époque, quoi. Alors, il y a pas mal de versions, mais moi j'ai entendu que c'était le nom tiré d'un général, soit romain, soit gaulois, qu'on avait retrouvé mort à côté d'un ruisseau qui n'avait pas de nom, et donc de donner le nom de un nom qui viendrait du nom de ce général. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai que des gens me l'ont raconté. Ce qui est sûr, c'est que ça vient du nom de ce ruisseau qui traversait les quartiers, le quartier de qui est devenu le quartier de la GESP maintenant.
Okay, à Tarbes. Donc c'est une SMAC. C'est quoi une SMAC ? C'est une scène.
Scène de musique actuelle.
C'est un label ?
Ouais, c'est un label d'État. C'est un label d'État qui exige certaines missions qui sont précisées par des conventions multiparties, puisque sur le label SMAC, nous avons la ville de Tarbes, nous avons la région Midi-Pyrénées et la DRAC. et des missions très précises concernant la politique tarifaire, concernant la diffusion de spectacles, quel type de spectacle, toujours. Toujours valoriser l'émergence, le local, les nouveaux styles de musique. C'est pas toujours facile, mais intégrer à peu près toutes les musiques actuelles, qui peuvent être la nouvelle musique occitane jusqu'au rap, en passant par le rock, les musiques du monde ou le métal. Et puis surtout, ce qui est hyper important, c'est ce qu'on appelle la partie sensibilisation et médiation. C'est qu'à partir de ces musiques-là, on doit créer des projets en direction des publics, mais tous les publics. La GESP travaille du troisième âge, avec des ateliers d'écriture et de mise en voix et de mise en musique dans les maisons de retraite, d'accord, jusqu'à la petite enfance, en passant par le secteur carcéral. On va retravailler, j'espère, avec le pénitentiaire et aussi avec ce qu'on appelle les projets de culture justice. Donc, on travaille avec des jeunes qui sont en réinsertion, qui ont des tiges, etc. Les quartiers, lycées, collèges, donc des ateliers d'écriture, des ateliers de mise en musique, des ateliers de création, de studio, etc. Enfin, on fait plein de choses. Et ce qu'on appelle les publics empêchés, quoi. C'est-à-dire le secteur culture santé, par exemple, où on a développé un projet l'an dernier, donc au foyer Las Azout à Lourdes, et où là actuellement on développe un projet au foyer au château du Rac à Tarbes. Donc tout ça, c'est vraiment pour
des publics un peu en difficulté là.
Ouais, complètement. Ouais. Mais on se targue de travailler avec tout le monde. Là.
Et il y a un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours, c'est un clip qui avait été fait pour la promotion de la Banque Alimentaire.
Oui, on était parti sur un projet, la Banque Alimentaire était venue nous voir en nous disant, voilà, ce serait bien que vous fassiez quelque chose pour nous, pour récolter, pour nous aider à récolter un petit peu d'argent pour la Banque Alimentaire. Alors, on a une tradition à la GES en décembre, on fait le Père Noël est un rocker, c'est une entrée contre un jouet gratuit, un jouet neuf. Et on le fait en général avec les élèves des classes de musique, notamment Marie Curie, avec lesquels on travaille toute l'année. Donc c'est une sorte de restitution de fin d'année. Et on travaille, une fois ça a été pour le Secours catholique, l'autre fois ça a été pour le Secours populaire. En général, c'est le Secours populaire. J'ai dit, écoutez, moi je veux bien qu'on fasse ça, mais en faire deux, ça va être compliqué. L'entrée contre un jouet, ça marche, parce que les gens, ils amènent un jouet. C'est vrai qu'en général, on fait entre 400 et 600 jouets sur une soirée comme ça. Voilà. Pour récolter des denrées, c'est pas aussi facile, et pour récolter l'argent, c'est pas aussi facile, mais on peut essayer de créer un projet sur l'année, quoi. Et on s'est rapproché de groupes de jeunes de quartier, notamment le quartier de Lourdes et de l'Aubadère à Tarbes, et où on est parti sur ce qu'on appelait un rap camp, c'est-à-dire qu'ils faisaient des camps de vacances rap, pendant les vacances scolaires, avec lesquels on les mettait en contact avec des artistes, et on a construit avec eux un clip de valorisation du travail de la Banque Alimentaire. Alors ils ont participé à des collectes, ils ont interviewé des récipiendaires, tout le monde, et à partir de là, on les a encadrés pour leur faire écrire une chanson qui serait la chanson de référence, texte, musique, expression scénique et clip, quoi. Et c'était super. On avait une vingtaine de jeunes et ce clip qui devait être le clip de référence pour valoriser la collecte de la Banque Alimentaire des Hautes-Pyrénées est devenu le clip de référence de la Banque Alimentaire
nationale,
au titre national, parce que effectivement c'est super bien fait, quoi. Les mômes, ils ont pris ça vraiment à cœur. Ils ont posé les bonnes questions, ils ont écrit les bons textes, ils nous ont renvoyé plein de choses, quoi, des choses qu'on ne voit pas quand on a toujours la tête dans le guidon. Et voilà, ça fait partie des projets qu'on a réalisés l'an dernier. Oui, pas très vieux, celui-là.
Et on est en septembre, qui dit septembre, bien sûr, dit rentrée, et la rentrée de la GESP, alors on n'a pas le programme détaillé, mais sur cette année 2026-2027, quels sont déjà là, sur les quelques mois,
oui,
des éléments phares que vous vouliez mettre, sans avoir forcément les dates, mais oui, les artistes ou les moments forts de la programmation.
Alors, en termes d'artistes, on va avoir quand même des belles choses cette année. On a Bertrand Belin, quand même, qui vient. On a Sam Sauvage, qui est cette révélation aux victoires, la révélation masculine des victoires de la musique, qui sera à la GESP aussi. Nous avons le plaisir d'accueillir le groupe d'Amy Winehouse, qui viendra jouer à l'occasion du 25e anniversaire du titre d'album Back to Black, voilà. Et donc ça, c'est vraiment le groupe d'origine, quoi. Ça va être un sacré événement. On va avoir aussi des concerts événements dans le sens où on a un projet sur 3 jours dans le cadre de l'itinérance culturelle qui va se faire dans le pays lourdais, dans 2 petits villages autour de Lourdes et en point d'orgue le palais des congrès où nous accueillerons une troupe de femmes qui s'appelle Rue de la Commune pour un spectacle qui s'appelle Nous avons en commun la résistance. Alors ça, c'est au mois de novembre. Et ce sont des femmes qui racontent l'implication des femmes pendant la résistance. Et toute la difficulté, les stigmatisations qu'il y avait. Le spectacle est magnifique, hein. Vraiment magnifique. On l'a accompagné en termes de résidence. On l'a fait jouer une première fois à Tarbes. On continue à l'accompagner. Et là, on pensait que dans ce cadre-là, pour pouvoir faire de la médiation, pour les rencontrer, les scolaires, etc., de Lourdes, c'était un spectacle qui parlait. D'autant plus qu'elles ont beaucoup d'éléments qui sont des éléments de territoire qu'elles intègrent dans leur spectacle. Je veux dire, quand elles jouent sur Tarbes, on va avoir des choses qui sont passées à Tarbes et qu'on ne connaît pas toujours. Ou sous autre. Là, elles se sont renseignées sur le territoire, etc. Il y aura des choses qui se passeront, les Ignants, Roumex, etc. Donc vraiment, c'est un projet de rencontre aussi avec les gens et de médiation. Il y a toujours autour des spectacles de gestes, tant qu'on peut le faire, quand on peut le faire, cette partie de rencontre artistique, soit avec les gamins, quand un travail d'éducation artistique, mais avec les publics aussi, on aime bien ça.
Voilà, un des moments forts, hein, de cette rentrée de cette année 2026-2027.
Oui. Oui, et puis puisqu'on est à Lourdes, il y aura aussi en 2027 la venue d'Abdel Malik, le slammer qui viendra pour fêter les 25 ans de son premier album Gibraltar qui avait été révélation aussi et qui l'a lancé sur une carrière internationale et on le fera à Lourdes
À
l'espace Robert Hossein. Ouais. Oui, nous sommes en partenariat avec la ville de Lourdes, donc il y a un échange d'organisation de spectacles, etc. La GESP essaie de rayonner sur tout le territoire. À ce titre, pour rayonner sur un territoire dont les 2/3 sont en zone de montagne, nous avons notre outil qui s'appelle le Magic Bus, qui est un camion, studio, scène, etc., qui nous permet d'amener les projets dans des villages, dans les écoles, etc., obligatoirement demander aux scolaires ou autres d'investir sur des bus pour et ce qui nous permet de faire des interventions sur le long terme, c'est-à-dire que si on sollicite un bus, si les scolaires sollicitent un bus pour venir voir un spectacle à la GESP, ce ne sera qu'un spectacle à la GESP. Or là, nous, autour du spectacle, il y a de la rencontre, il y a de la médiation, il y a des ateliers, il y a plein de choses. Donc quand on se déplace, en général, on vient pour plusieurs fois, quoi.
Oui, pour plusieurs fois. Pierre Domingès, vous êtes le patron de la GESP. D'abord, on va peut-être rappeler à nos auditeurs où se trouve cet endroit, cette scène.
Oui, mais c'est le lieu atypique, puisque effectivement c'était un lieu qui était un peu en dehors de la ville de Tarbes, quoi, puisque c'était
petit à petit,
maintenant au cœur, avec un quartier pavillonnaire qui s'est construit autour, avec les casernes Foy-Lesquen, etc., avec un apport de nouvelles familles, avec les gendarmes qui sont sédentarisés, et puis les quartiers sur l'Azur, les quartiers de politique de la ville. Donc, c'est vrai que cette salle qui était dans un quartier excentré est maintenant en plein cœur de la ville, quoi. Donc c'est du côté de l'hôpital, on va dire.
Voilà, de l'hôpital.
De la GESP d'ailleurs.
L'hôpital qui s'appelle d'ailleurs la GESP, effectivement. Bien sûr, vous avez un site internet où vous donnez bien sûr tous les renseignements pour la programmation pour l'année 2026-2027. On peut aussi acheter, je pense, des billets à l'avance.
Il y a le site,
il y a la billetterie. Voilà, ouais. Oui. Et puis, vous avez ce travail qui redémarre d'ailleurs sûrement avec les scolaires.
Oui, 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 on va commencer. On a déjà des projets sur Jean Dupuis, sur Vic, autour du harcèlement scolaire. On travaille sur les thèmes sociétaux qui sont très marquants. Et on se rend compte que finalement, il y a une expertise, c'est peut-être un peu fort, mais il y a vraiment un regard très particulier de la jeunesse sur ces problèmes-là, quoi.
Et une prise de conscience?
Prise de conscience, certainement, puisque c'est souvent eux qui impulsent les ateliers, mais une prise de conscience assez fine. Et finalement, quand on rentre de ce genre de projet, on en apprend autant que les gamins en ont appris, quoi. Ça nous permet de comprendre un peu mieux les publics jeunes, parce que le public change, la jeunesse, elle change. Nous, on avait une salle qui accueillait les 15-25 à une époque. Maintenant, on a vu que les tranches d'âge ne sont plus les mêmes. Et avec ce genre de projet, ça nous permet aussi de mieux connaître, de mieux cibler l'offre qu'on leur fera.
Vous qui avez traversé un peu le temps, et vous qui êtes au contact de cette jeunesse, des fois, on a l'impression qu'ils sont lobotomisés par les smartphones. Comment sont nos jeunes aujourd'hui? Comment ils vont, d'après vous, d'après votre expertise?
J'imagine qu'ils vont pas mieux que les anciens, parce que quand même, c'est pas très... On vit une période assez difficile, et peut-être qu'eux le ressentent encore plus, parce qu'ils ont des sensibilités très particulières, quoi. L'écologie, par exemple, chez les jeunes, c'est très fort, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui est plus fort. Alors, nous, c'est peut-être pas dans notre culture, ça le devient même parfois sur une manière punitive, en disant, voilà, fait ça, mais vous faisiez ça, maintenant, on peut plus le faire, quoi. Et les gamins, ils ont toujours eu cette alerte en tête, disant attention, ça va mal. Ils sont très sensibles à ça. Ils sont sensibles aussi à ces histoires de, alors le harcèlement parce qu'ils le vivent, mais aussi le respect des choix sexuels, par exemple. Ils en parlent beaucoup de ça, dans leurs textes. La lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les stigmatisations, quelles qu'ils soient, que ce soit les stigmatisations sexuelles, mais aussi raciales, quoi. Ces problèmes-là, quand on les aborde avec eux, on les sent très à l'aise. Très, très à l'aise. C'est assez étonnant. Ça les empêche pas d'être aussi un peu à côté, lobotomisés par les portables. Mais, pas toujours, quoi. Il y a aussi cette espèce de lucidité et cette sensibilité, ils l'ont, quoi. Et ils sont dans leur temps. Ils sont dans leur temps. Alors, comment ils vont? Les temps sont durs, quoi. Donc, ils sont dans leur temps et les temps sont durs.
Et les temps sont durs. Et la GESP est là pour les aider, pour faire également aussi, donc, ces actions, que vous faites avec
oui.
eux.
Oui, mais ils nourrissent la GESP. La co-construction de projets, c'est aussi pour nourrir la GESP. Moi, à 65 ans, je peux pas dire que j'ai la science infuse. Je vais faire le choix d'une programmation en fonction de mes goûts, en fonction de ce que je fais. Non. Eux, ils ont d'autres accès à la musique. Ils ont d'autres. Actuellement, il y a des groupes que j'écoutais pas il y a 3-4 ans, quoi, et que j'écoute maintenant parce que c'est passé à travers les rencontres avec cette jeunesse-là, quoi. Et il y a des groupes très intéressants. Il y a de tout. Il y en a aussi qui sont particulièrement mauvais. Mmh. C'est vrai que ça, au niveau de la génération musicale, on va dire, elle est pas honnêtement en termes de qualité. Je veux dire, pas de choix esthétique en termes de qualité, elle avance pas. Au contraire. Mais il y a des choses très intéressantes, quoi. Et grâce à eux, je le découvre, et j'en ai besoin. J'ai besoin de ce regard extérieur. La GESP a besoin de ce regard extérieur.
La GESP, vous avez parlé de votre âge, 65 ans, c'est votre...
Bientôt,
c'est
votre... C'est vrai que j'ai un peu emballé. Le fait de que de quelques mois, hein.
C'est votre bébé, c'est votre moteur, c'est votre carburant, c'est un métier passion que vous avez.
Ouais, c'est tout à la fois, quoi. C'est vrai que on a la chance de créer quelque chose de A à Z et de le voir vivre, évoluer et devenir autonome, quoi. Devenir autonome, même si les aides politiques et les politiques territoriales sont hyper importantes, essentielles, quoi. Elles le sont parce que parce que il y a une utilité de son structure. Pas pour faire plaisir à Pierrot, quoi. C'est la geste m'habite, quoi. Il faut même faire attention. Parce que au moment où il va falloir passer à partir en retraite, le plus tard possible, mais enfin, bon, il y a quand même, il faut pas se sentir, en rugby, on dit, faut pas faire le match de trop, quoi. C'est ça.
Ouais,
quoi.
Il faudra pas faire la saison de trop.
Voilà. Je sais que ce sera difficile pour moi, mais je ne veux pas me dire que je suis le meilleur et que la geste, ça peut être que moi. Ça, ce serait un danger, quoi. Ça voudrait dire que personne d'autre ne peut y arriver, y amener une autre couleur, quoi. Et je crois que c'est ça qui fera du bien à la geste, quand il y aura une autre couleur.
Un petit clin d'œil pour terminer, si vous êtes quand même sous l'égide de la mairie de Tarbes.
Oui. Alors, c'est une convention très particulière. Les locaux appartiennent à la mairie. Ils sont mis à disposition à la GESP en fonction d'un projet, d'une convention qui s'aligne un petit peu sur celle de la DRAC. Hein. Mais voilà, il y a des spécificités. La mairie demande certaines choses, etc. Cette convention tripartite, donc mairie, DRAC, ministère de la Culture et
la GESP.
Et oui, quoi. Quand on est parti, la GESP et la région, c'est un petit peu c'est notre Bible, quoi. Je ne fais pas esprit, c'est pas parce que je suis à Radio Présence que je le dis, mais c'est un peu, et c'est bien, c'est la charte de référence. Et oui, effectivement, la mairie met au-delà, en plus de financement, de subvention, elle met un outil à disposition, c'est une salle avec les flux et les prix en charge, et puis aussi une partie de certains salaires. Voilà.
Ben d'accord. Donc voilà, un beau partenariat, une belle salle qu'on peut découvrir à travers votre site internet qu'on va donner le nom
www.lagesp.com.
Voilà, tout simplement lagesp.com.
C'est ça, oui.
Et vous trouvez ça sur ça, vous avez la programmation, parce que c'est vrai que là je vous ai pris un peu à dépourvu.
Oui,
programmation qui est de toute la saison 2026-2027.
Ouais.
Et puis tout ce travail que vous faites avec ces publics dans les quartiers, avec les personnes défavorisées, avec ce beau clip qui est devenu, pour un clip qui devait juste se valoir pour faire la promotion de la Banque alimentaire des Hautes-Pyrénées, est devenu le clip de référence pour toute la France,
oui,
pour les banques alimentaires françaises. C'est aussi le travail des enfants. C'est vous aussi qui avez su travailler avec eux et les amener à ça. Un grand merci, Pierre Domingès, d'être venu à Radio Présence.
Merci, comme à chaque fois, avec gentillesse. Très bien. Merci beaucoup.
À bientôt.
Présence à Pau 96.
Présence. De passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Anne Deloye. Bonjour Anne.
Bonjour Mathias, bonjour à tous.
Avant de commencer cette émission, vous m'avez lancé cette phrase qui évidemment m'a frappé. Vous m'avez dit, j'ai failli mourir au début de l'année d'une infection au cœur, mais je suis encore là. Et vous m'avez dit ça avec un grand sourire. Si on reprend cette phrase, sans doute qu'on va entrer dans, alors chronologiquement pas du tout, mais dans des éléments de votre vie qui sont surprenants, édifiants, et on va aussi découvrir votre rapport à la souffrance, votre rapport à la joie de vivre, au Christ, à la foi. Vous m'avez dit cela parce que votre cœur est malade et même fatigué, Anne.
Oui. Alors j'ai peut-être eu, ou encore maintenant, un bon cœur et gros cœur, mais effectivement, il y a quelques années, c'était en 2009, j'ai été terrassée par un œdème pulmonaire aigu. On se demandait bien d'où ça venait, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, j'étais hospitalisée d'urgence. À ce moment-là, je me trouvais en Alsace. Et on a découvert que j'avais la valve mitrale, donc une des valves cardiaques, qui ne fonctionnait plus bien. Et voilà, donc on m'a fait suivre par un cardiologue pendant quelques semaines. Et puis très vite, le cardiologue m'a envoyé pour me faire opérer auprès d'un chirurgien cardio-thoracique pour une opération à cœur ouvert, pour changer.
Vous avez subi deux opérations.
Alors deux, en fait. J'ai été opérée en décembre 2009, une première fois, de la valve mitrale et de la valve aortique, donc deux valves cardiaques. Maintenant, j'ai des valves mécaniques. J'avais 47 ans à cette époque-là. Et puis, 5-6 ans après, il a fallu faire une nouvelle opération par rapport à la valve aortique.
Anne, vous en parlez avec une distance qui est surprenante, parce que vous devriez être révoltée, en colère. Vous avez été prise dans ce scandale du Mediator. C'est
oui.
ce médicament des laboratoires Servier
oui.
qui a causé
Tout à fait.
Les souffrances que vous vivez et le cœur déficient dans le, oui. que vous avez aujourd'hui.
Aujourd'hui, je peux en parler d'une façon très apaisée grâce à Irène Frachon, qui était donc, nos auditeurs s'en souviennent sans doute, cette lanceuse d'alerte qui a révélé le scandale du Mediator avec les, auprès des laboratoires Servier. Et donc, effectivement, moi, mon médecin traitant, quelques années avant que je fasse l'œdème pulmonaire, m'avait prescrit du Mediator parce que j'avais un diabète de type 2 qui commençait à arriver, donc on a voulu le stopper, enfin faire attention à tout ça. Ben, il a peut-être été très bon pour le diabète, mais il m'a abîmé la valve cardiaque. Et ça, en 2009, personne n'en parlait. Par contre, le Mediator que je prenais, il m'a tout de suite été ôté, quoi. Et il se trouve qu'un jour, en novembre 2010, j'ai entendu Irène Frachon parler à l'Assemblée nationale de ce scandale du Mediator. Et à ce moment-là, quand elle parlait, mais je me disais, mais le Mediator, c'est ce que j'ai pris. Parce qu'elle, elle se rendait compte qu'il y avait beaucoup de ses patients. Elle s'occupe de tout ce qui est respiration, poumon, enfin, etc., pneumologue. Et elle voyait beaucoup de ses patients qui mouraient. Ou qui était atteinte quelque chose, et elle a vu qu'avec le Mediator, c'était le, ben on va dire le phénomène commun à tous ces patients, la prise du Mediator. Et donc elle s'est donnée à corps et à cri. Sa famille l'a vraiment beaucoup soutenue. En fait, Irène Frachon, elle est à l'hôpital de Brest, elle est protestante de religion et de croyance, mais elle a aussi une famille avec elle qui la soutient à fond. Et donc, elle a mis un peu son métier entre parenthèses pour que les personnes victimes du Mediator soient vraiment reconnues. Alors bon, ça a mis des années, des années, des années. Mais c'est vrai que moi, c'est comme beaucoup de choses qui arrivent dans ma vie. J'en parle avec un peu un détachement parce que je crois que pour continuer à vivre, il ne faut pas s'accrocher aux difficultés que nous avons à vivre, à surmonter, on va dire année après année, jour après jour, parfois, dans nos propres vies. Et je crois que ça, c'est le lot de tout le monde. Si on s'accroche trop à ce qui peut nous paraître négatif, eh bien, ça ne nous donne plus la capacité de vivre à fond et d'être tourné vers les autres. Donc, moi, j'ai cette force, c'est vrai que je viens d'une famille, j'ai été élevée dans une famille catholique, de parents engagés, et il y a toujours eu beaucoup d'amour entre nous tous, enfin j'ai deux sœurs aussi, on est une famille très unie, et je crois que très tôt j'ai réalisé que la Providence, elle était à l'œuvre dans nos vies, quoi.
Mais cette joie de vivre, Anne, vous auriez pu même la perdre dès l'âge de 12 ans, lorsque votre papa meurt dans les atroces souffrances que conditionne une maladie de Charcot, parce qu'il a eu la maladie de Charcot.
Oui, il y a 50 ans, juste là, fin septembre.
On a 12 ans, son papa, vous êtes la troisième,
oui.
Troisième fille hein, du couple qu'il forme. Mais, avec votre maman.
Oui.
Ils s'aiment éperdument,
oui.
Un couple aimant et en plus croyant qui
oui.
a ancré hein, la vie de la famille dans la foi. Et votre papa meurt.
Et moi, moi comme mes sœurs d'ailleurs, on se rendait même pas compte que papa était malade. On voyait bien qu'il avait quelques difficultés depuis quelques mois, mais l'amour fait que on dépasse beaucoup de choses. Moi, je vais vous raconter une anecdote. C'est que je me souviens que papa, les dimanches matins, avant d'aller à l'église, on habitait pas loin d'Épinal, un petit village qui s'appelle Igné.
Dans les Vosges.
Dans les Vosges. Et bon, à l'époque, il y avait encore une messe tous les dimanches matins dans ce village. Et moi, tout à fait normalement, papa mettait une chemise, mais il n'arrivait plus à boutonner sa chemise. Et moi, normalement, comme toutes les petites filles de 10, 11, 12 ans, eh ben je boutonnais la chemise de mon papa. Mais comme si c'était un geste qui nous était donné à tous de faire, quoi. Je ne voyais rien d'anormal, mais ça voulait dire qu'il n'arrivait plus, vous voyez, avec ses doigts, avec la maladie qui le paralysait, à boutonner sa chemise. Et moi, j'ai fait ces gestes-là complètement. Et là, c'est là, quand je fais ça avec, vous voyez, 50 ans après, et même plus, c'est quelque chose, je trouve qu'on a eu des relations, mes sœurs, ma maman et mon papa, quelque chose de très privilégié. Alors, la mort est arrivée.
Malgré la souffrance et malgré la maladie.
Oui, oui. On se demandait bien, à un moment qui était une bonne cuisinière, papa était toujours ravi de ses plats. À un moment donné, il lui a dit, mais comment, je ne comprends pas, Lucette, tes plats n'ont plus de goût. Mais en fait, c'était lui qui avait perdu le goût. Donc, il y a eu plein de petits signes, comme ça, on voyait qu'il y avait une transformation. Mais il ne voulait pas nous faire souffrir, même si lui, il se demandait bien ce qu'il avait, puisque même la médecine, les professeurs qu'il rencontrait au CHU de Nancy étaient incapables de mettre des mots sur cette maladie et comment ça allait finir. Hein, vous voyez, on a la maladie de Charcot, maintenant on en parle beaucoup, mais imaginez en 1974, c'était rare, nous on n'avait jamais entendu parler de cette maladie non plus. Et je sais pas, la maladie du coup a fait partie tout à fait normalement de notre existence, là, la fin de la vie de papa avec nous. Il y a eu une autre vie, voilà, il y a quelque chose de fort. Le Seigneur était vraiment aussi très présent dans tout ce qu'on vivait.
Qu'est-ce qui se fonde comme conviction et peut-être comme confiance pour l'avenir à ce moment-là dans la tête de cette petite fille que vous êtes ?
J'en ai pas toujours conscience, mais je me rends compte que déjà, grâce à notre vie spirituelle familiale, eh bien, il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a quelque chose, alors maintenant que je sais nommer, enfin depuis déjà longtemps peut-être, la Providence, mais je crois qu'effectivement la Providence veille et elle est là et elle nous fait faire des pas. Et donc très vite, je vous dis, bon, à la mort de mon papa, je me souviens avoir dit, oh bah tiens, on a fait, j'ai tel résultat, j'ai telle satisfaction que je voudrais partager à mes parents, mais papa est déjà au courant puisqu'il l'a vécu avec moi. En fait, je sentais, et je pense que ma mère et mes sœurs pourraient dire pareil, on a fait beaucoup de choses, on a senti en nous la présence de notre père. Et moi, je le visualisais, je me souviens, quand j'étais petite, vraiment à la droite de Dieu le Père, quoi, qui était là pour veiller sur nous.
Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de la femme de radio. Vous avez été directrice de radio, vous avez été attachée de presse, vous avez beaucoup voyagé. Mais peut-être qu'on reste ancré là, dans ces premières années fondatrices. Bon, il y a la petite fille qui perd son papa, maman qui élève ses trois enfants, seule.
Oui.
Il faut, j'imagine, quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance en l'avenir pour avancer malgré cela. Et puis vous nous dites que vous fondez très vite une confiance en vous-même, la place de la Providence, la foi. Comment fait irruption dans votre tête l'envie d'être missionnaire ? Parce que vous allez assez vite partir à Madagascar, alors quand vous êtes majeur, hein, oui. On passe quelques années là. Mais quand même, là aussi, il faut avoir des audaces, il faut le vouloir, que partir à des milliers et des milliers de kilomètres de chez soi.
En fait, vers l'âge de 13-14 ans, donc peu de temps après le décès de mon père, j'étais sur un lieu, un sanctuaire marial qui est à quelques kilomètres de Nancy, à 30 kilomètres, c'est Notre-Dame de Sion. J'étais avec une de mes sœurs et maman, connaissant bien la communauté des Pères Oblats de Marie Immaculée, ils nous avaient demandé qu'on vienne leur donner un service pendant le temps des pèlerinages. Et étant sur ce site, j'ai été vraiment interpellée par une phrase qui était gravée là sur un monument de la paix, comme on dit. « Tous, vous êtes frères. » Et sur ce lieu religieux, ce lieu spirituel, j'avais fait connaissance avec un prêtre, donc des missionnaires Oblats Immaculés, comme on a aussi à Lourdes, les OMI. Lui, il rentrait du Cameroun, ce père. Et je me rendais compte que j'avais toujours besoin d'aller vers lui pour qu'il me raconte la vie qu'il avait là-bas, au Cameroun, la vie des enfants et des jeunes du Cameroun. Vous savez, on n'avait pas, c'était pas Internet, on n'avait pas toute, on va dire, même par les médias, la grande connaissance, mettons, on va dire, internationale ou universelle qu'on peut avoir maintenant. Donc moi, j'avais soif de connaître ce que vivaient des jeunes là-bas au Cameroun. Il me racontait. Et quand je suis rentrée à la maison après ce séjour sur ce lieu de, un peu de vacances et de service au sanctuaire, j'ai dit à maman, tu sais maman, quand je serai grande, je pars comme missionnaire. Alors maman lui dit, mais Anne, tu as toujours des idées très généreuses, c'est formidable, mais avant, il faudra passer le bac,
il faudra faire
des études. Voilà.
Vous allez en faire d'ailleurs des études.
Oui, je vais en faire un petit peu. Voilà, mais c'est quelque chose qui m'a toujours, cette phrase, tous vous êtes frères, et ce désir de partir en coopération, missionnaire entre autres, me tenaillait. J'étais dans mes temps libres, même quand j'étais lycéenne, étudiante, j'avais souvent envie de participer à des sessions avec des missionnaires qui rentraient. Donc c'était souvent des missionnaires originaires de France qui rentraient pour un temps de congé. J'avais besoin de ce contact-là et de découvrir ma vocation, ma propre vocation de missionnaire, en fait. Je sentais qu'en tant que baptisée, j'étais moi aussi appelée à aller dire l'amour de Dieu pour tous, la tendresse de Dieu pour tous les hommes.
Vous passez le bac, vous faites des études de publicité, de marketing, et vous partez en mission à Madagascar.
Voilà, pour 2 ans, donc avec la délégation catholique pour la coopération, c'était en 84. Je me souviens, maman me conduit avec 2 amis à l'aéroport d'Orly, puisqu'on partait encore pour l'international depuis Orly à l'époque. Et je lui dis, allez, au revoir maman, à dans 2 ans. Parce que j'allais aller dans un village en brousse, dans le nord de Madagascar, où il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante, donc pas de téléphone. Et Internet n'existait pas encore. Donc, à dans 2 ans. Et me revoilà installée dans l'avion, au moment du décollage. Mais je me dis, mais Anne, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir partir? T'étais si bien ici en France, quoi. Et j'avais rien qui m'était négatif, quoi. Enfin, mais qu'est-ce que j'ai voulu? Partir complètement dans l'inconnu. Je vais aller vivre dans une communauté religieuse pour me mettre au service de la mission catholique d'un petit village qui s'appelle Béalan. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Et m'est venue cette phrase aussi de l'Évangile. Aie confiance, il t'appelle. Et là, de nouveau, je me suis dit, mais de toute façon, je n'y pars pas toute seule. Papa est là pour me donner de la force, quoi, et pour m'accompagner, vous voyez.
Nous allons nous arrêter quelques instants, Anne. Nous nous retrouvons juste après la pause pour continuer à, comme ça, grappiller quelques éléments de votre vie. Là, on en reste à Madagascar, et puis on se retrouve juste après.
Présence de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Merci Anne Deslois de vous raconter un peu, de nous dévoiler quelques éléments de votre parcours. Alors si je devais repositionner là comme ça quelques étapes de votre vie, qui sont des étapes un peu structurantes, vous nous avez parlé assez longuement et avec beaucoup de profondeur du décès de votre papa, d'une maladie de Charcot, vous êtes issu d'une famille des Vosges, près d'Épinal. Vous grandissez dans le bonheur hein, avec vos frères, vos sœurs, pardon. Oui. Vous avez des sœurs. Et puis ce décès brutal, vous avez de votre papa, vous avez 11 ans, 11, 12 ans.
12.
12 ans. Et ce désir, depuis toujours quasiment, de cette audace de la mission, vous nous l'évoquiez aussi, ce départ à Madagascar après vos études et l'arrivée à Madagascar où vous découvrez quand même, je pense, la pauvreté.
Oui.
La souffrance. Mmh. Là aussi, face à ces souffrances, ces pauvretés, alors même que vous-même, vous avez vécu aussi vos propres souffrances, vous réagissez comment? Parce qu'on peut quand même se révolter, être blessé par ça.
En fait, quand j'arrive à Madagascar, vraiment dans les premiers jours, je découvre la richesse du peuple malgache, la richesse déjà par rapport à leur sens de l'accueil.
Oui.
Je sens qu'ils sont heureux de m'accueillir. J'habite dans une petite communauté avec des religieuses, moi en tant que laïque. Il y a une autre coopérante aussi, Monique, qui est à mes côtés, enfin qui est avec moi. Mais dans le village, à l'école, je sens que les gens m'accueillent volontiers. Je les fais rire. Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être un peu clown, ou je ne sais pas. Il y a une relation facile qui s'installe entre à la fois les professeurs, les parents, les élèves, et puis d'autres gens dans le village. Et je me sens bien avec eux. Je vais même oser dire, je me sens mieux avec eux qu'au sein même de la communauté religieuse, qui était composée de religieuses françaises et de religieuses malgaches, où je sentais qu'il y avait des difficultés entre elles, il y avait quelque chose qui me gênait dans leur relation. Et donc j'avais soif, moi, d'être bien sûr un bon élément dans la vie communautaire, mais aussi nourrie par la relation que j'avais avec les gens de l'extérieur. Et voilà, j'ai pu raconter beaucoup de choses. Je me suis vraiment enrichie de ce qu'ils étaient, de leur culture. J'ai beaucoup aimé aussi les paysages. On était dans une région plutôt montagneuse de Madagascar, très désertique à la fois. C'était de la caillasse. Il n'y avait même pas de route goudronnée pour venir jusqu'au village. Donc, on vivait très repliés sur nous-mêmes, quoi.
Dans un certain dénuement?
Ah oui, complètement. Puisque un village, en plus, où il n'y avait pas d'eau courante, il y a une rivière qui s'appelle la Béalan qui traverse le village, qui est une rivière pleine, toute orange, vous savez, pleine de latérite. Et là, dans cette rivière, les gens, vont laver leur vaisselle, vont se laver, vont laver le linge. Alors, nous, à la communauté, on allait chercher, on remplissait des tonneaux d'eau de cette eau de Béalan, mais on avait pour la boire, on avait un filtre, on la laissait aussi pour se laver, on la laissait reposer un peu. Mais à force, on avait la peau aussi qui devenait orange, parce que il y avait quand même toujours un petit peu des molécules de latérite dans l'eau.
Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience après des années, là ?
Je garde justement qu'on peut être pauvre matériellement et riche vraiment de cœur, quoi. Et ça, vraiment, le peuple malgache m'en a donné des témoignages à pratiquement tous les jours, où sans rien, sans un dénuement quand même, ils vivaient dans des cases très, très, très rudimentaires. Dès que il y avait un cyclone ou des pluies très fortes, la terre battue se délayait. Enfin bon, il y avait vraiment des conditions matérielles de vie très, très, très rudimentaires et en même temps une force aussi pour la vie et de la joie de vivre. Et d'accueillir l'instant présent. Des familles très nombreuses, avec alors souvent des enfants qui mouraient en bas âge, mais il y avait quelque chose, ils voulaient transmettre la vie, quoi. Il y a quelque chose de fort. Et si bien qu'au cours de... j'ai aussi eu l'occasion pendant l'été, enfin pendant l'hiver de l'Austral, mais l'été pour chez nous, de prendre un peu de vacances pour aller visiter d'autres régions de Madagascar. Et j'y ai trouvé toujours ce bel accueil chaleureux du peuple malgache, quelles que soient les ethnies que j'ai rencontrées et connues. Et vraiment, ils m'ont donné une grande leçon de vie, quoi. Dans la simplicité. Être là pour rencontrer, entrer en relation avec l'autre, mais dans une grande simplicité.
Au fond, c'est toute votre vie, la rencontre, aller vers l'autre que je ne connais pas, qui a une autre culture, qui a d'autres traditions. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des espèces de réflexes parfois identitaires, des peurs de l'autre, oui. Ce qu'on appelle même la xénophobie, la peur de l'étranger, la peur de celui que je ne connais pas. Vous parlez de cela comme si c'était l'épanouissement vrai de l'humain que d'aller vers l'autre qu'on ne connaît pas. C'est tout l'inverse.
Ah, c'est peut-être l'inverse, mais...
Qu'on vit, par rapport à ce qu'on vit actuellement. Ouais.
Je ne le cherche pas, ça m'est donné.
Et c'est toute votre vie d'ailleurs.
C'est toute ma vie.
Lorsque vous serez au service des œuvres pontificales missionnaires.
Pareil.
Être au secrétariat général de la mission universelle.
Oui.
Ça fait partie de votre parcours professionnel, mais aussi votre parcours de vie.
Mais c'est vrai que mon parcours professionnel et mon parcours, on va dire, personnel et j'irais vocationnel, a été en communion, quoi. C'est extraordinaire. C'est là où je vois aussi l'action de la providence. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des fois des soucis où je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Enfin, mais vraiment, je peux dire avec le recul, s'abandonner à la providence, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Il faut arriver à le vivre, hein. C'est peut-être pas donné effectivement à tout le monde, mais j'ai la chance, je crois, d'avoir reçu ce talent. Je pense que c'est un don de Dieu, tout ça. Enfin, je ne sais pas comment dire d'autre.
Vous parlez de cette rencontre fondatrice avec le peuple de Madagascar. Vous allez aussi beaucoup voyager durant votre vie. Là aussi, le voyage, on peut le faire de façon très touristique.
Ah oui.
On peut passer sur la surface des choses, voir juste l'écume des choses. Et vous ? Vos voyages n'ont jamais été de cet ordre-là.
Ah non, parce qu'il me faut communier de l'intérieur avec les gens. Vous voyez, par exemple, à Madagascar, mais comme dans d'autres pays d'Afrique où je suis allée moins longtemps, hein, pour des séjours des fois de simplement 3 semaines ou 5 semaines, j'oublie facilement que je suis blanche. Et je me souviens justement à Madagascar, en avril 86, il fallait que j'aille à Tana, donc la capitale, Antananarivo, pour faire des papiers, parce que quelques mois après, je quittais Madagascar. Et je suis arrivée au petit aéroport de Tana. Il y avait tout un groupe de touristes blancs avec leur bel appareil photo, avec leurs belles chaussures, leurs chemises, leurs chapeaux, enfin, etc. Et moi, je me suis sentie complètement étrangère. Je me suis plus sentie de ce peuple-là. Et moi, j'étais avec, bien sûr, mes chaussures en plastique, comme tous les malgaches, mes pieds nus, bon, d'accord, ma petite chemise peut-être un peu fleurie, ma petite jupe dans un tissu local, et j'avais oublié que j'étais blanche. Et j'ai réalisé, j'ai dit, mince, mais quand dans quelques mois, quand je vais être rentrée en France, comment je vais être? Je vais me sentir étrangère au peuple français. Bon, en fait, non, je n'ai jamais perdu, je vais dire, toute la richesse, tout ce que j'ai accueilli des malgaches. Mais justement, je dis, ils m'ont donné la chance de savoir ce que c'était qu'être étrangère quelque part. Ça, c'est extraordinaire. Je dis, mais j'aurais pas vécu ces 2 ans, entre 22 et 24 ans, à Madagascar. Donc, on va dire, au début de ma vie adulte et de ma vie professionnelle. Je crois que j'ai vraiment beaucoup appris grâce au fait d'être étrangère dans une nation, quoi, vous voyez. Et c'est pour ça, je crois aussi que j'ai un regard particulier sur l'étranger qu'on accueille en France, ou des fois qu'on n'accueille pas, et bon, voilà, qui nous dérange. C'est vrai que j'ai un autre regard, je suppose, qui est plus un regard peut-être d'amitié, de fraternité pour ce que l'autre est.
Dans votre trajectoire, il y a aussi l'univers des médias.
Oui, c'est vrai.
On l'a dit, on y a fait allusion dans la première partie de cette émission. Vous avez fait des études en publicité, en marketing. Mmh. Donc vous aimiez déjà, de votre plus jeune âge, cet univers médiatique, la pub, marketing.
Exactement.
Et vous avez été, dans votre parcours, directrice de radio. Directrice d'une radio, en particulier à Nancy.
Oui. Hein?
Bon, on ne va pas raconter le détail du pourquoi et du comment, mais ce que j'aimerais entendre peut-être à ce stade de notre conversation, c'est le regard que vous portez sur cet univers médiatique qui, contrairement à ce que vous nous disiez à l'instant, est superficiel parfois.
C'est vrai.
Passe sur la surface des choses, le marketing, il peut y avoir aussi, et la pub, des choses mirobolantes.
Oui. Ce que je peux dire aussi, c'est que des fois, on passe sur des choses superficielles et sur des choses qui vont faire le buzz, comme on dit maintenant.
Oui.
Et ça, c'est vrai que c'est quand même dommage. Et c'est, je vais dire, un bravo que je veux apporter à Radio Présence, à ces médias qui dépendent de diocèses ou d'organismes spirituels, religieux. On cherche à aller un peu plus profond des êtres, quoi. Ou même des événements, lire les événements d'une façon avec un peu plus de recul, de profondeur, pas être forcément dans le sensationnel. Et je crois que c'est très très important. C'est vrai que moi, dans ma vie professionnelle, quand j'étais au niveau de la direction d'une radio, comme vous l'avez dit, ou bien comme attachée de presse, je me suis j'avais tous les supports qu'il fallait pour travailler, quoi. Les supports modernes pour la communication. Et je vais vous dire que maintenant, en fait, dans ma vie personnelle, j'ai un téléphone qui me sert pour téléphoner, un téléphone portable qui me sert que pour téléphoner. J'ai un ordinateur qui me sert pour à la fois faire du traitement de texte, des tableaux et tout ça, mais aussi regarder mes mails. Mais je ne mélange pas tout. J'ai une vie qui me donne la chance de ne pas être, vous voyez, sur plein de réseaux sociaux. Quelque part, je n'y suis pas sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envie. Parce que je suis arrivée aussi à un moment donné de ma vie où j'ai des lectures, je suis abonnée à La Croix chaque jour, je suis heureuse de pouvoir lire les articles qui viennent par ce journal-là, mais j'ai pas besoin d'aller toujours sur des sites et ceci et cela pour m'informer, quoi. J'ai l'impression que là-dessus, je fais un peu de résistance. J'ai beaucoup de gens qui sont étonnés de pas me trouver sur Facebook. Ah, puis Instagram, toi, t'aimes bien faire des photos, pourquoi tu... Non. Les photos que je prends, je vais les partager par SMS avec mes proches ou comme ça, si j'ai envie de prendre des photos. Mais je n'essaye pas, j'ai besoin en fait d'être un peu en retrait de toute cette vie médiatique, médiatisée, superficielle. Et j'ai la chance de pouvoir vivre un peu en retrait de tout cela. Merci, beau cadeau.
Merci beaucoup, Anne Deslois. Une autre fois, peut-être que nous pourrons vous faire parler de Lourdes. Vous avez œuvré pendant plusieurs années, vous êtes maintenant installée à Lourdes. Mais on en reste là pour cette fois-ci et c'est déjà beaucoup.
Merci,
vous
Mathias.
Vous nous faites un beau cadeau que de nous offrir tous ces éléments de, vous, de, vos, de votre vie et qui peut-être peuvent nous servir à tout un chacun.
Merci.
En termes de réflexion pour nos propres approches face à la vie qui parfois n'est pas facile.
Radio Présence sur le COS 106.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Un tournant symbolique franchi en Allemagne après la victoire de l'AfD hier en Saxe-Anhalt.